That stuff for Alan.
Welcome to the Who Is Working Group session on Monday, the 15th of October, 11 a.m. local Toronto time. Thank you.
Thank you, Gisela. Welcome, everybody. My name is Carlton Samuels. I am the chair of the Who Is Working Group at Large, Who Is Working Group. Glad to see all of you here. This is an open session. Most of you would know that At Large has some standing working groups. The Who is just one of them. And we are particularly focused on the Who Is matter. Right on the left of the screen there, on the board, you see what our goal line is. The current ICANN Who Is policy prescription. It says we must implement measures to maintain timely, unrestricted, and public access to accurate and complete Who Is information, including registrant, technical, billing, and administrative contact information. That's what the current policy says. And that is our goal line. We are very much concerned that the Who Is implementation has always been a matter of controversy because of the tensions that it develops between privacy and access. So we recognize this tension, and ALAC and At Large, to the extent that we maintain unrestricted public access to accurate Who Is data, we're always open to suggestions as to how there might be a balance between that sentiment and privacy. We had two major items on the agenda to discuss this morning, and then the floor is open. The first one we had on the agenda item was the uniformity of contracts. And the second one is the registration data model. Those were the two. Members, any of you could make suggestions as to other things that might be important to you, but those are the two that we have on tap for dealing with this morning. So, if it would help, maybe we should just go around the table and introduce some of our participants, starting down at my far right.
I'm Peter Knight. I SOC in Washington D.C. and in Brazil. Very interested in ICT for development, and my first ICANN meeting to understand a little bit more of the ICANN culture. Thank you.
Hi, I'm Maureen Hilliard. I'm from the Cook Islands. I'm representing the Pacific chapter of the Internet Society, and I have an interest in the whole Who Is issue. I'm here to listen.
Holly Raish, the Internet Society, and soon to be a member of ALAC, right now Vice Chair of APRALO, and this is an issue that I have been following for some time.
Garth Bruin, Chair of NARALO. Holly, you didn't sound happy about being Vice Chair.
Ecstatic about being vice chair.
It's a privilege. In addition to being the chair, I also run an organization called NewJohn, which is focused on internet abuse, and we have taken a very, very long and deep look at the Who Is issue and related problems. Thank you.
Gordon Chilcott, representing Greater Toronto Area Linux Users Group. And as a group, we have a rather strong technical interest in it, which has now morphed into looking at the policies, because that's where that's going to drive the technology, hopefully, not the other way around.
And Evan? Come introduce yourself. Oh, God.
Hi there. According to this card, my name's Chris Lahat. The rest of the time, my name's Evan Leibovich, Vice Chair of ALAC.
My name is John Berard. I'm a GNSO counselor from the business constituency. We have a couple of motions before us on Wednesday that I thought I might gain some additional insight to by participating, at least listening this morning.
Thank you, John. We would probably bring it up in the discussion on the uniformity of contracts. There is a motion in GNSO about uniformity of contracts. There's also a motion in the GNSO about the FICU is matter. And we could talk about those two. But there are several other motions, but those two in particular would be of interest to the WHO is working group. Thanks. So let's move into the first item that we had on the agenda, and that is the uniformity of contracts. John did mention that there is a GNSO motion in front of GNSO Council for action, and perhaps I could start off with John to see what his interest is and how we might see if we can come to some happy medium on this.
Well, I don't think I'd like to tip my hand, but my colleague on the business constituency, GNSO Councilor, I think, is the author of that motion. Sahid. And there was in over the weekend the GNSO discussion surfaced some anxieties about the motion from other councillors who feel that it is not focused enough in one instance or moves into areas that are best left to contract negotiation on the other. So I don't know how it's going to come out, but I thought I would just come and give a listen.
We are putting the motion up momentarily so that you get a look at it. For the others who might have not seen it, I've looked at it myself because our liaison to the GNSO, Allen, has actually brought it up to the ALAC, so I have looked at it. Our item was on this agenda long before we knew there was going to be a motion about GNSO. But let me tell you what the issue was for us in the WHO's working group. The RAA says that you must have, and this is specifically now to the WHO's question, the RAA says that commits the registrar to have a accurate name and postal address. That's what the RAA says. If you look at the registry agreements, they're all over the place. And the idea was, especially with respect to who is, that you should have uniformity requirements, uniform requirements in registry and registrar instruments. That is our major interest, that with respect to the WHOIS requirements, there should be uniform requirements in the instruments for registry as well as registrar. You found it, Matt? Okay. We are not so much bothered that with the whole set of data items. We are mostly concerned that at the minimum, the WHOIS requirements should be the same. They should be harmonized. That has been our issue. No. It's a uniformity of contracts. Let me get it from Ellen. No. It is in the agenda. It's in the agenda. So that's fine. We had it in the agenda. The problem is I can't get on the internet. It says it can't find my webpage. It's unavailable. You got it? Okay. Well, I can't get anywhere because this thing doesn't work. I can't get it. It's timing out on me. We have insufficient bandwidth, apparently. That's the one. Can we just scroll down?
The explanation is with these motions generally embedded in the links in the whereas clauses. So I'll yield to you to fill in the background.
Let me tell you what I understand to be the issue, because we've brought it up in the ALAC about 2 years ago when we were looking at the WHOIS construct, and we were trying to figure out whether or not there was a uniform policy prescription for WHOIS. We looked at the registry agreements, and we looked at the registrar. The RAA was then in the middle of being renegotiated, and so we look at what they were asking for in terms of WHOIS. And it was very clear that there were differences between the requirements in the registry as well as the registrar contracts. And so the idea is, if the registry is the baseline, and the registrar are working to collect information, and in the context of the thick and the thin WHOIS, because you know in the thick WHOIS situation, the registry also maintains and keeps WHOIS data. The question was, why would you then have a situation where the WHOIS requirements were not similar across the board in both agreements? And if we were going to move to the thick WHOIS construct, then it was absolutely required that the WHOIS data would be the same for registry and registrar. That was the background. And in our view at the time, we thought because we were supporting the thick WHOIS construct, we thought one of the requirements to make that work was to ensure that the OWASP requirement was the same across the board for registry as well as registrar. That was the issue for us. Most of you would know that there are two types of OWASP frameworks out there. There's the thick OWASP and the thin OWASP. Believe it or not, it's more about how the data is handled and stored than anything else. But before you can store data, you have to collect it. And if you do not have the same requirements for collection, then you would have disconnects. That's the first one. If you look at the second, there was another, this ESAC folks came up with this registry data model, which we feel is going to be important for adoption, because this is where you could have a single data model that covers collection of data and the storage of that data. That is what that model would allow us. So if that model is adopted, if you look at the tuples, if you look at the elements in the...
Donc, si vous observez les éléments, on peut se rendre compte qu'il y en a un qui est adopté. Et ça dépend des registres et des bureaux d'enregistrement. Donc, ces deux éléments sont en rapport, selon nous. Donc, je crois que cette motion va un petit peu plus loin encore. L'abus, et je comprends bien, l'abus des bureaux d'enregistrement. Je crois qu'il faut clarifier cela. Je crois que nous parlons d'activités qui sont néfastes. Est-ce que vous voulez parler dans votre contexte de ce que vous voulez dire ? Je crois que cela en rapport avec la conformité dans un contexte du RAA, je crois que ça va encore plus loin. Je crois que c'est les accords. Les accords pour les registres ne sont pas uniformes dans ce qu'ils demandent. Dans le cadre des abus au niveau des inscriptions. Je crois que ça dépasse également WHOIS. Oui, il y a 11 différents comportements. Il y a des critiques de par le monde. Et en ce qui concerne le WHOIS, il y a des critiques en raison de vérification des données, de qui appartient, à qui appartient les données. Il y a également une promotion qui est effectuée de cela des forces de l'ordre, de la part des forces de l'ordre. Des personnes qui participent à ce processus. Donc, il y a une forte opposition à cette motion. Et au niveau rétroactif également, beaucoup est effectué. Donc, c'est ça notre problème. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je sais que ça va être une conversation assez longue que nous aurons mercredi. Donc, est-ce que vous disiez que pour nous, les données WHOIS, je sais qu'il y a des négociations pour le contrat RA qui se déroule. Il y a eu une réunion qui s'est faite ici avec l'ALAC et on a beaucoup parlé de conformité et du manque de conformité. On en a parlé ici même dans cette salle. Donc on ne fait même pas partie de la négociation du RA. On n'est même pas au courant de ce qui se passe. Donc... est-ce que les contrats sont tels que la conformité, on ne peut pas la faire régner, on ne peut pas... je crois qu'il y a des informations qui iraient en ce sens, peut-être, au niveau de l'ALAC, mais on n'est pas très en confiance. on ne pense pas obtenir beaucoup de résultats. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de nos positions, donc je ne prends pas cela personnellement, mais je sais que c'est une conversation sérieuse et assez grave. Les besoins de vérification, d'accès, et nous allons voir au niveau de la conformité. Je ne veux pas que ça devienne une réunion baissée, mais nous avons soutenu une meilleure diligence en ce qui concerne la conformité, un meilleur respect. Et donc, nous avons 2-3 ans historiquement. Je pense que ça n'a pas été assez apprécié, n'a pas été assez financé. Et maintenant, la conformité, je pense que c'est bien, va directement sous la houlette du PDG. Donc, je crois que tous les acteurs ont eu voix au chapitre et nous verrons quels seront les résultats. C'est pour cela que je suis venu ici, pour participer autant qu'être informé. Bon, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, merci. Nous avons une question qui va être lue, qui vient de l'Internet. Oui, Matt Ashiani, je lis le transport. Une question de Rudy Van Nick. En ce qui concerne l'exactitude des informations du WHOIS, qui vérifie les données du bureau d'enregistrement, les différents échantillons, les proxies, les procurations et ainsi de suite? Oui, peut-être que je peux intervenir, parce que c'est justement le problème, le cœur du problème. Ce qui inclut gêne et préoccupe beaucoup ALAC et At Large. On nous demande d'avoir des données précises et exactes. Mais personne ne vérifie l'exactitude de ces données. Donc, ces données ne sont pas précises, en fait. Donc, il y a un moment où on ne peut pas être sûr, en fait, que ces données soient exactes. Donc, il n'y a pas de processus de vérification d'exactitude de ces données. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette vérification de l'exactitude? Mais il est clair que dans le cycle, nous devrions vérifier l'exactitude des données. Pour le moment, nous n'avons pas de moyens pour ce faire, ou d'autorité nous permettant de vérifier ces données. Et de manière anecdotique, je ne pense pas que les données soient vérifiées. Oui, l'année dernière, oui, où est-ce que c'était la dernière réunion? Pas l'année dernière, mais à la dernière réunion, il y a eu un séminaire sur les données WHOIS et un débat dans le contexte qui nous avait été donné. Je ne parle pas du RA, mais il y a une clause qui requiert que les données ou que les bureaux d'enregistrement essayent raisonnablement, il y a une clause là-dessus, nous avons cette clause, nous connaissons, et on leur a donné donc une certaine autorité à ce niveau pour définir peut-être l'exactitude. Qu'est-ce que ça veut dire l'exactitude? Lors de la dernière réunion ICANN, il y a une présentation qui a été effectuée sur les données et sur leur exactitude, comment on définit l'exactitude des données. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? On n'a toujours pas de réponse précise à cela. Nous avons eu quelques présentations à ce sujet, néanmoins, de la part des bureaux d'enregistrement, qui ne veulent pas passer beaucoup de temps et d'argent à vérifier les données. Mais il y a certains processus qu'ils pourraient utiliser néanmoins, qui ne coûteraient pas cher. Donc, ça c'est un domaine de flexibilité que nous avons identifié, mais la question n'a pas été résolue. Donc, que fait le bureau d'enregistrement pour vérifier l'exactitude des données pour assurer la conformité? Et oui, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'il faut dire vos noms avant de vous exprimer. Garth a beaucoup d'informations à ce sujet et on va le laisser s'exprimer. Garth Brown. Holly a parlé de 378 et des problèmes avec les définitions de l'aspect raisonnable. La conformité donc des données. Il y a donc un petit peu plus de détails à ce niveau. Mais néanmoins, il y a un problème qui va plus loin. Il n'y a rien dans le contrat qui oblige un bureau d'enregistrement à suspendre un domaine qui a un faux « who is ». Ils ont toute latitude pour ce faire et c'est un grave problème. Selon moi, parce que, premièrement, la directive telle qu'elle est vraiment, c'est le bureau d'enregistrement qui décide de quoi faire. Donc, il écrit sa propre directive, en quelque sorte. Donc, on ne sait pas où tracer une ligne de démarcation. Cette ligne de démarcation est déterminée par le bureau d'enregistrement et uniquement une fois qu'il y a eu une plainte. Et c'est seulement une fois qu'on a traité la plainte que l'on peut suspendre le domaine. Donc, nous avons une ligne de conduite sur l'effacement et il me semble que cette partie de l'accord, on ne peut pas la faire respecter. Et cela ne fait pas partie des négociations qui existent pour réviser le contrat. Merci, Garth. Oui, bon, bonjour. Il y a une certaine autorité dans le RA pour que le bureau d'enregistrement vérifie ou envoie au moins un email annuel pour que les données soient exactes. Donc, je crois que s'il y a un problème, il faut leur indiquer, sinon rien n'est réglé. Ali Reich. Et ce qui est encore pire, et on en parlait hier, que faisons-nous pour les registres qui ne font pas respecter l'accord? Pour quelqu'un qui est un registrant et qui ne se préoccupe absolument pas de la qualité de ces données, qui a de nombreux noms de domaines qui auraient dû être effacés depuis longtemps. Et ça, c'est une situation qui existe. C'est ce que vous avez dit. Où est le moment où l'on fait respecter les règles? Où est la ligne de démarcation? Elle n'est pas dans le RAA, ce n'est pas dans l'accord de registre, quelles sont les pénalités au niveau du registre, au niveau du bureau d'enregistrement, pour les personnes qui ne vérifient pas en premier ou bien au moins annuellement la qualité des données. Merci beaucoup, Harley. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Oui, merci beaucoup. Steve Latalex, groupe propriété intellectuelle. Tout d'abord, je suis arrivé en retard, je m'en excuse. J'aimerais remercier ce groupe et At Large en général pour tout le travail qui a été effectué sur ces problèmes et sur les RA. Je crois que ça a été extrêmement important. Comme Holly l'a dit, je dois continuellement en parler au GNSO et à l'équipe de rédaction pour la révision donc du RA. C'est le GNSO et l'ALAC, le groupe de rédaction ALAC. Donc, ceci dit, je crois que c'est un excellent exemple. Au niveau des négociations ARA, les demandes des forces de l'ordre comme on a identifié les priorités élevées, moyennes et importantes, c'était haute priorité. Je ne me rappelle plus du libellé exact, mais c'est ce qui doit être spécifié dans le nouveau contrat. Donc, j'ai demandé à la réunion du conseil GNSO samedi, j'ai participé à distance, et j'ai demandé s'il y avait une mise à jour, parce que le personnel distribue une documentation, mais j'ai demandé si cela était fait avec les demandes de l'équipe de rédaction, on m'a dit non. Donc, je ne sais pas ce qui a été débattu, mais nous avions également ces priorités à noter. Donc je crois qu'on ne suit pas les instructions qui ont été données, c'est un problème. Et nous devons continuer à presser sur ce sujet. Je crois que ça sera un bon moment pour les membres d'ALAC de s'exprimer cet après-midi. Oui, nous allons parler de cela cet après-midi et je souhaite une équipe GNSO ELAC et on est resté à parler jusqu'aux petites heures du matin. Et oui, je suis déçu, comme vous tous. C'est quelque chose qui aurait dû être négocié. Tout ce que nous avions dit a disparu, mais nous avions parlé d'exactitude et que faire dans le cadre du Who Is. On ne sait pas exactement ce qui est négocié et sur quoi on négocie. Et ces négociations n'avancent pas. Et pourquoi n'avons-nous pas voix au chapitre ? Pourquoi on nous dit que c'est contractuel, donc on n'a pas le droit d'être présent, on n'a pas le droit de participer, on n'a pas le droit d'écouter ? Donc c'est très frustrant. C'est très pénible. Comme on l'a vu au niveau de la conformité, c'est simplement une négociation entre deux parties qui nous affecte, qui a un impact sur nous. Evan, oui, Evan Leibovitz. Oui, j'aimerais faire passer cela au niveau supérieur. Je ne sais pas qui a dit cela, un politique a dit des inconnus, inconnus. Là, on ne sait absolument rien. On ne sait même pas contre quoi protester. on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si on peut dire c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Je crois que ce que l'on sait, c'est que 378 n'est même pas débattu pour la renégociation. Donc, même si l'on sait ce qui se passe, ça n'agit pas en notre faveur. Et vraiment, il n'y a aucune transparence, un manque total de transparence, de participation. Et c'est vraiment ce que l'on considère être la confiance des utilisateurs finaux. Vous avez des registraires d'un côté et on parle d'un modèle multipartite, mais j'ai l'impression qu'ils sont des deux côtés de la salle de négociation, de la table de négociation, ces bureaux d'enregistrement. Donc, il y a un élément de ce niveau qui existe tout à fait. C'est pour ça qu'on a un manque de confiance du public. Et qu'il y a une perception où on nous dit qu'on ne travaille pas pour le bien public et on a besoin d'avoir des observateurs externes qui vérifient un petit peu ce qui se passe. Merci beaucoup. John Berard, je suis conseiller GNSO. Est-ce que le HALAC a parlé de l'étendue du problème et des items qui doivent être inclus? Est-ce que on a parlé de ce qui constitue une erreur ou une mauvaise représentation? Si l'administrateur change de travail et si le nom de l'ancien administrateur est toujours présent? Donc, j'aimerais en savoir plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne veux pas faire de jeu de mots, mais qui est, who is, qui modère cela, la fréquence, qui se vérifie la fréquence. Donc, je sais que le gouvernement américain parfois retire des sites web, mais quelles sont les actions appropriées? Oui, comme je le sais, oui, c'est Evan. Les critères, c'est le non-paiement. C'est le seul critère, le non-paiement. Donc le seul critère qui permettrait de retirer un site web, c'est un non-paiement. Ce n'est... Si vous ne renouvelez pas votre contrat, vous ne payez pas, là vous avez un problème. Oui, mais j'essaye d'avoir... une idée là-dessus, lorsque vous dites sur quelle base est-ce que, selon vous, un site web devrait-il être retiré? Et quelle est la nature de ce qui est assez incorrect? Donc, nous avons défini une déclaration. Et nous avons des éléments, en effet. L'objectif, c'est d'avoir assez de données pour identifier positivement un registrant. Nous avons noté très clairement que nous demandons que l'ensemble des données soit précise et exacte. Ce que nous n'avons jamais fait, c'est de suggérer à quel point et jusqu'à quel point les données doivent être précises. On a dit qu'elles doivent être précises, point à la ligne. On n'a pas donné de date, de date limite non plus. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous regardons ce modèle d'inscription des données parce que nous voulons nous assurer que toutes les données sont sont toujours dans ce modèle. Et il y a une inquiétude à ce niveau. Il y a cette inquiétude, et c'est pour cela que nous devons regarder ce modèle proposé pour nous assurer qu'il est adéquat. Ceci dit, nous pensons qu'il y a, puisque c'est si central à ce que fait l'ICANN, il devrait y avoir un consensus. On devrait tomber d'accord par consensus. Nous pensons également qu'avec ces négociations, comme l'a dit Evan, l'absence de toutes les parties prenantes est une mauvaise chose. Et nous avons lancé peut-être une idée. Mais elle est restée en l'air sans réponse. Donc nous continuons à pousser, à avancer pour que les négociations soient plus publiques, pour qu'on puisse les observer. Est-ce qu'il y a des murs dans ces négociations qui nous empêchent, des obstacles qui nous empêchent d'avoir accès à ces négociations? Nous avons des positions très fortes à ce sujet. Mais Bart Warren, je crois que, vu la présentation du CEO de ce matin, du PDG, il a dit que ça devait être ouvert et libre. Il l'a dit clairement, pas de secret, tout va être ouvert, tout va être libre, tout va être équitable. C'est ce qu'il a dit ce matin. Et ben, ça va totalement à l'encontre de ce qui a été dit par le PDG ce matin. Je prends note, j'ai pris note, et je crois que ce qu'il a dit également, que tout devait être dans l'intérêt du public. Donc, très clairement, l'intérêt du public, pour toutes les parties prenantes, équitable, c'est X. Et je crois que Garth a fait beaucoup de travail à ce niveau, et si nous comprenons au minimum l'ensemble des données, une question de propriété intellectuelle et une question des forces de l'ordre, des polices qui nous demandent parfois d'avoir accès à ces points. Non, vraiment, oui. Gaspard, oui. Je crois qu'il y a des parties qui sont requises et mieux définies par ailleurs. Et qu'est-ce qui est exact, qu'est-ce qui n'est pas exact? Je crois qu'il y a beaucoup d'interprétations. Est-ce que vous avez une adresse postale? Vous devez pouvoir accepter du courrier si vous avez un numéro de téléphone. Ça ne doit pas toujours sonner occupé. Et en ce qui concerne les domaines, vous avez les extensions, vous avez les adresses e-mail, et dans beaucoup d'archives, vous avez des e-mails sans TLD, sans nom de domaine inscrit. Vous avez des fausses adresses e-mail, enfin c'est un petit peu n'importe quoi. J'ai vu des situations. On me disait, mais non, tout va bien. C'était ridicule. Le courriel, l'adresse email ne pouvait pas fonctionner, puisqu'il n'y avait pas d'extension. Donc, je crois que lorsqu'on détermine que l'adresse email est fausse, donc c'est totalement fictif. On a des documents pour prouver que c'est une personne fictive qui n'existe pas. Et là, il n'y a aucun recours. L'ICANN ne peut rien utiliser puisque on ne peut même pas effacer ce domaine. Je crois que ça fait longtemps que l'on parle de cela. On n'est pas là pour parler du contrat, pour négocier le contrat, qui n'est pas juste, qui a des problèmes sérieux, ce contrat, des éléments du contrat. On peut avoir accès à une interface ICANN, on peut faire une plainte, déposer une plainte sur un nom de domaine, et quelque chose doit se faire. Il doit y avoir une mesure de prise. Il y a tellement de points d'entrée dans le RAA. En fin de compte, c'est totalement inefficace. Donc la question qui doit être posée, c'est comment pouvons-nous mettre cela à l'ordre du jour? C'est la question que je pose à tout le groupe. Il y a quelqu'un qui voudrait intervenir? Oui, Carlton Samuels. Posons une question à John. Votre résolution parle des situations d'abus. Et parle de l'uniformité du contrat pour s'assurer qu'il y a un élément dans le contrat, un endroit dans le contrat, où on est un compte-rendu des abus. Vous anticipez que ça ne va pas passer. Est-ce que vous pensez que l'ALAC peut faire quelque chose, les at-large peuvent faire quelque chose pour soutenir l'objectif? Nous comprenons l'objectif. La question que nous posons, c'est comment pouvons-nous vous soutenir? Donc, moi je ne m'attends pas à ce que ce soit refusé. Mais ce week-end, il y a eu des réticences très fortes. Et vraiment, on en a débattu parfois d'une manière assez houleuse. Et moi, je me demanderai à Alan, votre observateur ALAC, qui a une forte influence au niveau du Conseil, qui est vu comme quelqu'un de très sérieux et brillant. Et je suis sûr qu'il sera votre voix. Mais c'est une motion qui vient du groupe business, donc des entreprises. Ce n'est pas encore été appuyé, donc c'est un problème. Mais mis à part cela, moi, j'espère que ça va mieux se passer à l'avenir. Donc, une question avant que vous partiez, monsieur. Donc, Evan Leibovitz, je crois que vous pouvez réfléchir à ça avant de quitter la table. On va essayer de passer à un niveau supérieur, comme on l'a dit. Comment gérer la conformité? Comment renforcer le processus? Voilà ce qu'on essaye de faire et de modifier. Ça pourrait être, par exemple, vous avez des contraintes, nous le comprenons bien, au niveau du GNSO, l'ALAC a un règlement intérieur, on a la possibilité de faire des commentaires, on va essayer de commenter, et on va essayer de parler au conseil d'administration, on n'est pas limité par le PDP, et à la base, ça indique qu'il faut passer au niveau supérieur, donc si on peut faire quelque chose, si vous avez des idées, nous aimerions les connaître sur ce qu'on devrait mettre dans le RAA. Donc, s'il vous plaît, parlez-nous-en. Et ça va nous éclairer un petit peu. Oui, John Berard, yeah. Oui, je vais participer à cela. Et comme modèle, j'aimerais parler des efforts du BC, on essaie toujours de parler à tout le monde. Et on essaye d'agir dans le cadre de notre mandat et de nous assurer que il y a des réponses dans le cadre du plan stratégique. Et nous avons fait des commentaires sur le budget pour nous assurer que l'équipe est financée à bon escient. Et nous avons donc, je ne sais pas si on peut parler de sabre, nous avons essayé d'attirer l'attention du public sur la conformité, parce que, comme vous le savez, la crédibilité de l'ICANN est en jeu à ce niveau-là. C'est important. Il faut qu'ils puissent mieux gérer leur conformité. Oui, Evan Leibovitz, vous avez dit dans le cadre de leur mandat. Et nous avons eu, nous avons parlé de conformité hier, et très rapidement, ils nous disent qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire rentrer en vigueur ou de faire régner comme ordre, comme décision. Mais il y a également apparemment beaucoup de choses que l'ICANN, sur lesquelles l'ICANN n'a pas donc de pouvoir. L'ICANN manque de pouvoir dans de nombreux domaines. Et moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est une grande question, dit John Bernard. Oui, nous avons de sérieuses inquiétudes à ce niveau et nous avons un accord de coopération pour essayer de régler ces problèmes. Donc, je crois que on a pratiquement terminé ce thème. Donc, nous allons passer aux autres items qui sont les modèles des données pour l'enregistrement des noms de domaine. La LAC veut assurer que, avec les noms de domaine internationalisés, les critères pour l'exactitude et les données WHOIS restent en vigueur. Si vous regardez et observez le modèle de données que vous prenez comme un seau, vous allez mettre toutes ces données dans ce seau et nous voulons nous assurer que tous les éléments de ces données qui sont critiques, qui sont essentielles pour identifier les registrants, restent dans ce modèle. L'autre niveau, c'est l'accès et l'affichage de ces données pour les utilisateurs habituel de l'Internet. Vous avez peut-être noté qu'en juin, le personnel a mis un modèle d'inscription en place pour que les données qui sont affichées, que ce soit par accès web ou serveur, soit cohérente. Donc, ça soit 2 bits. Si vous observez donc le modèle de données, pour assurer que tous les éléments soient capturés, il y a toujours des inquiétudes. De la manière dont les éléments de données sont capturés, on n'a peut-être pas assez pour les domaines internationalisés. Et dans notre intérêt, nous devons nous assurer que le modèle de données correspond bien à l'objectif et soit en mesure de capturer tous ces éléments
quelle que soit l'origine des données WHOIS, qu'elles soient internationalisées au niveau de l'inscription ou une inscription standard. Et ayant lancé de cette manière la thématique du débat, je vous laisse maintenant vous exprimer et prendre la parole. Oui, j'ai demandé à Garce de répéter un petit peu ce qu'il a dit tout à l'heure. Quels sont les éléments qui sont essentiels, c'est Holly qui parle, pour allez-y. Eh bien, un des objectifs originaux de départ, c'est de pouvoir contacter quelqu'un s'il y avait un problème. Ça vient d'avant même les domaines. C'était pouvoir communiquer avec quelqu'un s'il y avait un problème, le faire savoir. Ce n'est pas seulement un problème de vente de produits ou de marketing ou de copyright, de droit d'auteur. Il peut y avoir un problème technique, tout simplement. Envoyer du pourriciel, du pourriel. Peut-être qu'ils n'en sont même pas conscients. Peut-être qu'ils ont été piratés, hackés, je ne sais pas. Nous parlons de victimes de cybercriminalité, de propriétaires de noms de domaine. C'est dans votre intérêt que l'on puisse vous contacter en cas de problème. Ça fait sens. Il y a des noms de domaines qui sont infiltrés, détournés. Il y a des pages qui n'ont jamais mis sur leur nom de domaine. Il faut pouvoir les contacter. Donc, il faut pouvoir le faire savoir à ces personnes. Donc la manière dont on communique, c'est par email. Donc il faut qu'il y ait une adresse email valide. Et surtout si vous avez une opération commerciale, quelqu'un doit lire ces emails. Vous recevez beaucoup de réponses automatiques à un email qui nous dit personne ne lit cet email. Donc à quoi ça sert tout ça? Donc, il faut pouvoir parler à quelqu'un au téléphone. Et si le numéro de téléphone n'est pas bon, eh bien, il faut écrire une lettre. Un courrier. Je crois donc que par ordre d'importance, pouvoir communiquer avec la personne par email, téléphone ou adresse postale. Je vais demander à Steve du groupe business, puisque vous nous écoutez, puisqu'on communique, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui compte pour votre groupe? Steve Matelitz, propriété intellectuelle. Donc sur le modèle des données, je suis d'accord que ça doit être quelque chose qui fonctionne avec les noms de domaines internationalisés, mais nous avons d'autres inquiétudes sur le modèle de données tel qu'il est actuellement. Il me semble qu'il y a un status quo, un modèle de statu quo. C'est le même modèle qu'au jour d'aujourd'hui. Et nous pensions qu'une des raisons pour laquelle nous voulions un nouveau protocole WHOIS, il y a un meilleur système d'enregistrement, c'est qu'on veut un meilleur WHOIS. Donc, ce qui a été identifié par le personnel de l'ICANN et qui est maintenant le sujet d'une enquête, d'une étude de l'ICANN, ce sont les critères du protocole WHOIS. Je vais vous donner deux exemples. Il y a un débat sur des informations des données historiques revenant en arrière, ce n'est pas indiqué sur le modèle de base pour les données. Et on a parlé des données WHOIS, de devant-elles inclure ou pas la date, dernière date de vérification des données. On peut avoir des codes pour cela, si ça a été validé par courriel, téléphone, adresse. Donc, est-ce qu'il s'agit seulement de données qui ne sont pas valides, ou bien est-ce qu'elles ont été vérifiées, et comment ont-elles été vérifiées, et quelle date ont-elles été vérifiées? Donc, je ne crois pas que ce soit dans le contrat, le modèle de données. Donc, j'ai posé la question à Prague, et on m'a dit c'est extensible. Quelqu'un pourrait donc donner des informations WHOIS. Je crois que l'idée, c'est d'avoir un standard minimum. Donc, à l'avenir, nous devons avoir des données supplémentaires. Ça, ce sont deux exemples. Donc, si on a un modèle de base, je crois qu'il faut s'assurer que le modèle inclut les informations qui ne sont pas actuellement collectées et qui devraient l'être. Oli, à la parole. Oui, je vois que nous voulons commenter à ce sujet. Et comme l'a dit Garth, il y a des éléments supplémentaires et une vérification. Et Evan en a parlé. Est-ce que l'on peut vraiment faire régner ces règlements et les faire adopter et respecter? Oui, j'aimerais, Carlton Samuels ici, un des problèmes d'accès aux données WHOIS, leur utilisation pour différentes objets. Donc, est-ce qu'on doit les collecter de cette manière si elles ont différents objectifs? Eh bien, si les données WHOIS sont collectées pour différents objectifs, de cette manière pour voir ce qui a été payé, on peut voir les adresses Internet Protocol qui permettent d'accéder aux données. Donc, peut-être que le modèle de données devrait inclure certaines informations sur les adresses IP. Et sur l'historique un petit peu de ces adresses Internet Protocol IP. On en a parlé déjà de cela. Qu'en pensez-vous? Oui, il me semble que il y a des personnes qui abusent le système, c'est clair. Ça ne fait aucun doute. Et ce qui m'intéresse, et Steve le mentionnait, au niveau de la certification de l'homologation des données, il y a maintenant beaucoup de parties tierces qui fournissent des données et qui vendent des données WHOIS. Et je crois qu'il y a d'ailleurs une poursuite en justice en ce qui concerne les données de domaine. Et ça me paraît intéressant de voir qui demande cela, quel est le volume dont on parle. Et
je crois qu'il va y avoir des opportunités pour les personnes qui ont un besoin légitime d'accéder à des données. Merci beaucoup. C'est pour ça que je posais la question. Parce que vous savez qu'il y a eu des inquiétudes à ce niveau. Accès aux données en vrac, en gros. Moi, je crois que les chercheurs devraient pouvoir accès aux données, mais je dois m'assurer qu'il y ait un certain contrôle aux données en vrac. Bon, Prune, moi j'écoute attentivement. Donc, vous demandez ces adresses. C'est beaucoup, beaucoup d'archives sur certains sites. C'est absolument énorme. Oui, eh bien, ce n'est pas toutes les données Whois. Les trois ou quatre dernières données accédées. Hein, un ensemble de données. Oui, parce que si vous voyez le nombre de gens qui accèdent à Facebook aujourd'hui... Eh bien, vous avez dit Evan? Evan Nebovitz. En ce qui concerne l'accès en vrac, en gros, aux données, je ne sais pas si on peut comparer cela avec des données exactes. Si on ne veut pas que les données soient récoltées, eh bien... Il faut le mettre derrière une capture. Si, il faut qu'il y ait une personne, un humain qui reçoive cela. Donc je ne sais pas si ça me pose gros problème. Si les registres ne veulent pas qu'on collecte les données de cette manière, mais s'ils sont prêts à s'engager à des données exactes. Donc ça c'est à voir. Si l'on va permettre ou ne pas permettre cela, mais... Je crois que ce n'était pas un problème d'intérêt public. Donc, je crois que c'est des objectifs totalement différents pour la recherche ou autre chose. Et la question de responsabilité qui se pose également, qui est là, mais un petit peu enterrée sous quelque chose d'autre. Bob, et ensuite on passe à Holly. Oui, je réfléchis toujours à ce sujet. L'accès peut être fait par des personnes qui font des scams, des abus. Moi, je sais que c'est arrivé là où on travaillait. On a eu un site colo et on a reçu beaucoup de données. Donc c'est vraiment quelque chose que je sais. Donc je ne crois pas que ça aide de ralentir le processus. Oui, Bob, Samuel ici. Donc, vous avez des interfaces humaines. Qu'est-ce que vous suggériez comme alternative, comme solution de remplacement pour accepter l'accès aux données en vrac. Donc, la capture ne suffit pas. Je ne propose pas de solution. Nous avons beaucoup de données. Les criminels peuvent obtenir très rapidement ces données. Et je ne sais pas comment gérer cela. Je ne sais pas si on doit s'en inquiéter ou pas. Oui. J'aimerais poser une question à Jim, qui est dans la sécurité. Quel type de données doivent être très précises pour les forces de l'ordre? Merci. Tim Gadden, vice-président du SXO au niveau de la sécurité. Ce que j'ai entendu dire de la part des forces de l'ordre, c'est que vous pouvez mettre de côté les problèmes de validation. Toute donnée qu'ils obtiennent est valide. Ils peuvent faire beaucoup avec des données. Ils s'intéressent à des données vérifiées, bien entendu, mais c'est un thème séparé. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils aiment comme données. Ils en veulent un maximum. S'ils peuvent tout avoir, eh bien, ils veulent l'obtenir. Personnellement, c'est utile de séparer le type d'accès que l'on veut avoir. Donc, je crois qu'on peut avoir un accès interactif. L'accès en vrac peut être traité séparément. Et au niveau technologique, il n'y a pas de raison pour lesquelles l'accès en vrac ne peut pas être fait par 43. Il y a des technologies nouvelles qui pourraient identifier cela. Et il faut prendre en compte cette opportunité. Voilà ce que je voulais dire, à moins que vous n'ayez une autre question spécifique. Oui, c'est utile. Oui, Martine a mis sur l'écran l'ensemble de données qui est renvoyé. Si vous voyez les items, ça c'est ce que et le RDDS, les spécifications WHOIS, c'est ce qui est renvoyé par la personne s'inscrivant. Donc, prenez en considération ce qu'a dit Jim. Avec l'accès en vrac, bon, je comprends que ce qu'il dit lorsque l'on doit séparer les deux points, standard et accès bulk, donc si l'on voit l'ensemble qui est renvoyé par le port 43 et que vous voyez une autre méthode, eh bien les dépenses sont très limitées. Ce que je n'ai jamais compris, c'est le pourquoi. Pourquoi il y a eu tant de réticence à l'accès à ces données en vrac? J'essaye de comprendre cela. C'est un ensemble de données qui est renvoyé, tout ce qu'il y a sur l'écran. Donc, Evan et Garth. Oui, Evan Lebowitz, moi, je crois que le spam pourriel, c'est ennuyeux, c'est utilisé pour le spam, et un exemple très clair, moi, personnellement, je crois que Dominion, chaque année, je reçois quelque chose qui me dit, nous aimerions renouveler votre domaine par postal, adresse postale. Donc, ils ont trouvé mon adresse postale lorsqu'ils ont acheté des données en vrac. Donc, ce dont on parle, pour avoir de bonnes données, eh bien, je crois que dans le cas du vrac, des données en gros, eh bien, c'est pour envoyer du spam. C'est ennuyeux plutôt qu'un danger. C'est pénible. ce n'est pas vraiment un danger. Donc, c'est pour cela que je ne m'énerve pas trop. Oui, ça c'est vraiment du travail de masse. Essayer d'obtenir des transferts de domaines et de se battre sur les prix, c'est vraiment inéquitable. Ce n'est pas une procédure commerciale qui soit très juste, me semble-t-il. Je crois que ça devrait être interdit. Très précisément, on ne peut pas utiliser les données WHOIS de cette manière. On ne peut pas essayer de retirer les clients d'une personne pour les obtenir à un prix moindre. Moi, j'ai fait une petite étude il y a de cela quelques années. J'ai noté tous les bureaux d'enregistrement. Et j'aurais demandé quelle était leur procédure. Ils ne savaient pas de quoi je parlais. Donc, il y avait un sol. Et tout le monde a refusé de toute façon. On m'a eu des menaces de mort. Ces données sont essentielles pour eux, mais ils ne savaient même pas ce que c'est. Et en fait, on peut télécharger beaucoup de fichiers par zone. Et on obtient des données WHOIS. C'est pas difficile à faire. Et donc, il y a des millions et des millions de données qui sont précises et qui peuvent être envoyées. Et donc, très souvent, on me dit « Donnez-moi 10 000 dollars et on vous donnera l'argent, les données. » Donc, ce n'est pas vraiment une question de protection qui se pose. Donc, je comprends. Il y a d'autres problèmes qui se posent et que nous devrions explorer. Nous devons terminer à la demi, et il est presque la demi, donc... Donc, Steve, vous voulez dire quelque chose? Merci, Randy Blass, de At Large, Amérique. Un commentaire rapide. Je suis propriétaire d'un domaine... Et je crois que la majorité des propriétaires de domaines apprécient le fait que toutes les informations requises sont publiques et sont revendues. Le spam, c'est quelque chose. Mais il y a d'autres entreprises qui utilisent toutes ces données de manière délictuelle, frauduleuse, scandaleuse. Moi, je reçois tous ces emails. Maintenant, je vais peut-être changer d'adresse email. Et les numéros de téléphone qui sont valides ou des vieilles adresses email. C'est la mentalité de certains. Moi, je propose une solution, c'est d'avoir un processus pour les demandes. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Randy. La parole est à Holly et je crois que vous allez pouvoir conclure. Ah non, absolument pas. Non, ça ne va pas être le dernier mot que je vais dire. Donc, pour un propriétaire de domaine, et selon vous, est-ce que ça arrive souvent qu'on vous demande, on pose des questions sur la validité de vos données et que l'on vérifie la validité de ces données? C'est ce dont on parle.
Je vais clarifier votre question pour vous dire combien de fois on me pose cette question éventuellement. Sur la validité de mes données, c'est une bonne question. Le registraire avec lequel auquel je fais face, chaque registraire a un processus différent. Normalement, je reçois un email qui nous dit « on voulait juste vous rappeler pour vous assurer que vos données WHOIS soient valides ». Et c'est à peu près tout. Je n'ai jamais eu personne d'enregistreur qui m'a appelé pour vérifier des données ou reçu un email pour vérifier des données. En fait, j'aime cette manière-là de faire. Ça m'ennuierait si c'était le cas. Mais il y a des gens, simplement des gens qui ont essayé de me contacter pour une chose ou une autre, sur des choses qui soient reliées au problème ou pas du tout d'ailleurs. Encore, moi je trouve ça ennuyeux, c'est un problème. Merci Wadi, nous apprécions cela. Nos collègues, nous allons fermer cette session. C'était bon de voir tout le monde ici. Nous savons que nous avons du travail à faire encore. Nous sommes toujours ouverts à des suggestions sur les choses que nous pouvons faire de façon collective. Nous, groupe de travail à large, nous sommes vraiment d'accord. Nous voulons vraiment avoir de la collaboration pour trouver de façon à plus haut niveau pour trouver des efforts de conformité. Nous voulons vraiment trouver des alliés pour formuler quelque approche que nous pourrions utiliser pour être conformes. Les efforts de conformité sont renforcés par des instruments qui informent. Nous croyons cela vraiment. Ça fait 4-5 ans que nous le disons, qu'il est temps pour nous d'avoir un plus grand ensemble d'intérêts pour voir ce que nous pouvons proposer pour améliorer cela. Nous sommes toujours ouverts à la discussion, à recevoir toutes vos opinions, et vous savez que vos opinions seront bienvenues. Et merci à tous d'être là pour cette réunion.